Bonsoir, bienvenue dans votre bulletin géopolitique pour la semaine du 30 avril au 7 mai 2025. C'est le premier bulletin du mois, donc celui-ci est un accès libre gratuit. Les autres, je le rappelle, sont réservés à nos souscripteurs. Nous commençons cette revue d'actualité internationale par le Moyen-Orient. Un affrontement aérien aurait eu lieu dimanche entre les forces israéliennes et turques dans l'espace aérien syrien, selon les médias. Selon le média d'opposition turque Sokzu, des F-16 turcs auraient pénétré l'espace aérien syrien au cours du week-end et envoyé des messages d'avertissement aux avions israéliens qui étaient impliqués dans une vague de frappes dans ce pays, notamment pour protéger la minorité druze du sud du pays. J'en ai parlé dans le précédent bulletin. L'armée israélienne a quant à elle démenti ces informations, mais selon le média turc, l'incident s'inscrivait dans le cadre d'une des opérations israéliennes les plus intenses depuis la chute du régime d'Assad. Plusieurs des cibles des frappes auraient été des milices pro-turques opérant dans le nord de la Syrie, notamment les brigades Sultan Mourad et Suleyman Shah, affiliées à la Turquie. L'Azerbaïdjan organise des exercices militaires qui, selon l'Arménie, ont eu lieu au Nakhitchevan, vous savez, cette exclave azerbaïdjanaise qui est située au-delà du territoire arménien et en limite du territoire turc. Ces exercices font suite à plus d'un mois de signalement de violation du cessez-le-feu entre les deux pays. Jeudi, Armeni Press, un média d'État arménien, a rapporté que l'Azerbaïdjan avait mené ces exercices donc dans l'exclave du Nakhitchevan, et a cité les médias pro-gouvernementaux azerbaïdjanais et le ministère azerbaïdjanais de la Défense qui affirmaient que les exercices faisaient partie du plan de formation 2025 de l'Azerbaïdjan. Ces exercices ont été menés dans un contexte de près de 30 accusations de violation du cessez-le-feu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en un peu plus d'un mois, notamment à la frontière entre l'Arménie et le Nakhitchevan précisément. Les dernières accusations ont été portées lundi matin, jour du début des exercices azerbaïdjanais, donc on voit que alors qu'il y a quelques semaines, on espérait que la question de la paix se dénoue enfin, bien qu'on en est encore finalement assez loin. Dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre le Liban et Israël, un responsable de sécurité a déclaré le 30 avril à l'AFP que le Hezbollah avait retiré ses combattants du sud du Liban et que l'armée libanaise avait démantelé plus de 90% de ses infrastructures au sud du fleuve Litani. Il a ajouté que les tunnels du Hezbollah ont été comblés et scellés et que l'armée contrôle les accès pour empêcher le transfert d'armes. L'accord de cessez-le-feu, qui est entré en vigueur le 27 novembre dernier, a mis fin à plus d'un an d'hostilité, dont deux mois de guerre ouverte, qui ont laissé le Hezbollah fortement affaibli, vous le savez, notamment si vous avez suivi ce bulletin depuis tout ce temps. Le président libanais, Joseph Aoun, a confirmé quant à lui que l'armée contrôle désormais plus de 85% du sud du pays, et cela sans opposition, selon une interview à Sky News Arabia, ce qui semble indiquer que l'armée libanaise est bien de retour et que la situation s'améliore, et on peut l'espérer, durablement. Sur l'autre front, le 5 mai, Benjamin Netanyahou a déclaré que son gouvernement lançait une nouvelle opération militaire musclée à Gaza pour éliminer le Hamas, précisant que les forces israéliennes resteraient sur place après leur intervention. Il s'agirait donc d'une occupation, ce qui marquerait un changement stratégique, puisque jusqu'ici, l'armée israélienne se contentait de ratisser, de nettoyer une zone avant de passer à une autre, pour traquer les combattants du Hamas et détruire leurs infrastructures afin de neutraliser la menace. Cette stratégie ayant, semble-t-il, montré ses limites, Netanyahou a indiqué que la nouvelle stratégie ne serait mise en œuvre qu'après la tournée de Donald Trump dans les pays du Golfe du 13 au 16 mai, donc il pourrait s'agir d'un tango, on va dire, avec Donald Trump pour permettre à celui-ci d'utiliser la perspective d'une offensive israélienne intensifiée pour inciter ses interlocuteurs à faire pression sur le Hamas. Encore autre front autour d'Israël. Dimanche, un missile des Houthis a frappé pour la première fois, selon l'armée israélienne, près de l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv, poussant Benjamin Netanyahou à promettre une riposte contre les Houthis et l'Iran, bien sûr, qui est censé les soutenir. Le 5 mai, l'armée israélienne a annoncé des frappes aériennes sur des infrastructures Houthis à Hodeïda, au Yémen, en réponse à cette attaque et à d'autres tirs de missiles et drones revendiqués par ces rebelles soutenus par l'Iran. Les cibles incluaient des infrastructures portuaires utilisées selon l'armée pour le transfert d'armes iraniennes, ainsi qu'une cimenterie, source économique clé pour les Houthis. Téhéran a nié tout soutien aux Houthis, mais le ministre des Affaires étrangères iranien a accusé Israël de chercher à provoquer une catastrophe régionale en impliquant les États-Unis. Vous savez que les États-Unis, eux aussi, frappent les Houthis régulièrement depuis plusieurs semaines. Semble-t-il que cette semaine, le porte-avions américain, je pense que c'est le porte-avions Harry S. Truman, aurait perdu un deuxième F-18 Super Hornet, semble-t-il, pour les mêmes raisons que le premier la semaine dernière, c'est-à-dire en étant contraint de faire un virage rapide après une attaque de missiles et de drones Houthis. Donc l'intensité des frappes se poursuit dans la région et désormais Israël y participe encore plus fortement. Le 2 mai, la télévision d'État algérienne a diffusé un communiqué virulent qualifiant les Émirats arabes unis de micro-État, de ramassis de bâtards sans honneur, de nains au service d'Israël et accusé de tuer femmes et enfants. Le 3 mai, les autorités algériennes ont en outre arrêté le chercheur Mohamed Lamine Belghit suite à des propos controversés qu'il aurait tenus sur Sky News Arabia, chaîne codétenue par Sky News Group et un fonds lié à la famille régnante émirati. Belghit a nié l'existence d'une identité amazigh en Algérie, ce qui est un élément clé de l'identité nationale, en la qualifiant de création des services français et israéliens et évoquant un complot colonial franco-sioniste. Le tribunal de Dar el Beida à Alger a reproché à Belghit, dans un communiqué relayé par les médias, une violation des principes de la société algérienne inscrits dans la Constitution. Alors c'est un peu un embrouillamini idéologique autour de l'État algérien. J'ai du mal à voir quelle est la position exacte des Émirats arabes unis là-dedans et ce qui leur vaut véritablement cette acrimonie, c'est plutôt par association, mais on reconnaît encore une fois, si vous voulez, ça fait un ennemi de plus, hein, on a envie de dire, parce que ce qu'on a constaté ces dernières semaines, c'est que l'Algérie ne se contente plus d'être en bisbille traditionnel avec le Maroc et la France, mais à peu près tous ses voisins, on l'a vu avec les États, l'Alliance des États du Sahel, des tensions aussi du côté tunisien et maintenant des tensions également avec les Émirats arabes unis. Donc décidément l'Algérie est dans une phase particulièrement assertive pour ne pas dire agressive. Et elle vient de lancer en plus un mandat d'arrêt international contre Kamel Daoud en France, ce qui fait suite sans doute à la relative lâcheté dont on a fait preuve à propos de l'arrestation de Boualem Sansal. On part en Amérique où mardi, lors de sa première rencontre à la Maison-Blanche avec le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney, Donald Trump a catégoriquement rejeté tout assouplissement des droits de douane sur les importations canadiennes. À la question de savoir si quelque chose pourrait le faire changer d'avis, le président américain a répondu « non, c'est comme ça ». Ce qui est assez raide et vraisemblablement que cela ressort de la stratégie de Donald Trump qui a véritablement, je pense, l'intention d'annexer le Canada. Et une stratégie, en tout cas les contours d'une stratégie pour commencer par le faire imploser ce pays. Et lundi, la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a annoncé dans un discours que la province organiserait un référendum en 2026, potentiellement sur la souveraineté, si une pétition citoyenne recueillait suffisamment de signatures. Et il est très vraisemblable que ce sera quelque chose du genre « est-ce qu'on doit devenir le 51e État américain ?» et ou devenir indépendant, mais ça, on peut penser que l'un serait la condition de l'autre. Elle a précisé que dans ce cas, son gouvernement respecterait le processus démocratique en incluant la question de la séparation au scrutin du référendum provincial de 2026. Par ailleurs, le gouvernement albertain a formé un groupe d'experts en droit, économie et éducation pour débattre de l'avenir de la province et définir les termes du référendum de l'année prochaine. Donc assez clairement, la manœuvre est engagée et de son côté, Donald Trump va sans doute pousser en maintenant la tension contre l'économie canadienne. Donald Trump, précisément, on revient en Europe, a indiqué à la question où lui demandait mais quelles étaient les concessions qu'il demandait à la Russie, il a répondu « La Russie devrait renoncer à toute l'Ukraine, car c'est bien l'ensemble du pays qu'elle cherche à obtenir. Si je n'étais pas intervenu, ils seraient déjà en train de se battre pour l'Ukraine tout entière. » Donc l'idée, dans l'esprit de Donald Trump, et c'est finalement ce qu'on avait déjà dit, tout simplement, l'idée, il a conscience, et il sait, parce que je pense que c'est vrai, qu'en demandant un arrêt des combats sur la ligne des combats actuels, c'est une concession en soi qui demande à la Russie, puisqu'actuellement c'est la Russie qui avance. Donc c'est assez très clair. Donc de son point de vue, à Donald Trump, et je pense que c'est vrai fondamentalement, il n'a fait aucune concession à Poutine. Et sa proposition de paix consiste bien, comme on l'avait dit, à lui laisser seulement ce qu'il a pris et exiger qu'au contraire, il renonce à tous ses principaux de guerre, buts de guerre. C'est-à-dire, Poutine voulait le reflux de l'OTAN, la démilitarisation de l'Ukraine, le reste des oblasts annexés, vraisemblablement un changement de régime. Tout ceci ne l'aura pas dans la proposition de paix faite par Trump. Il a également indiqué, Donald Trump, ça c'est important, je crois que nous sommes plus proches d'un parti, peut-être moins de l'autre, je préfère ne pas dire de quel côté nous sommes les plus proches, mais nous avons conclu un accord pour le peuple américain. Donc ça c'était extrêmement clair, c'est-à-dire qu'en gros, les États-Unis sont plus proches du pays avec lequel ils ont conclu un accord, c'est-à-dire l'Ukraine, puisqu'ils ont fait l'accord sur les minéraux. Donc, à mot couvert, Donald Trump, tout en essayant toujours de maintenir la position du médiateur, du négociateur neutre, montre que les États-Unis, malgré tout, estiment être plutôt du côté de l'Ukraine, ce qui ne sera une surprise que pour ceux qui seront surpris, n'est-ce pas? En Roumanie, 5 mois après l'annulation surprise du premier tour de la présidentielle, la Roumanie a donc consolidé son tournant nationaliste lors d'un nouveau scrutin, le 4 mai, plaçant en tête Georges Simion, leader de l'Alliance pour l'unification des Roumains, avec 41% des voix, dépassant largement les attentes des sondages. Et ce commentaire que j'ai lu sur France 24, cette fois, je cite, cette fois, aucune manipulation d'ampleur en provenance de Moscou n'a été repérée sur les médias sociaux. Cette remarque m'a fait un petit peu m'étonner, étant donné que nous savons que la manipulation d'ampleur qui avait conduit à l'arrivée de Kalin Georgescu en tête au premier tour ne venait pas de Moscou, mais venait du parti centriste au pouvoir en Roumanie, qui a tenté de faire une manipulation type François Mitterrand avec le Front National, en le faisant monter pour s'assurer la victoire dans le scrutin. Visiblement, il y a une partie de la presse qui n'est pas au courant de ça, alors que c'est une info, encore une fois, qui était sortie dans Politico et Euronews, c'est-à-dire pas des chaînes conspies d'extrême droite pro-russe. Malheureusement, tout le monde n'arrive pas à remettre son logiciel à jour pour avoir une analyse rationnelle. Le conclave a débuté à Rome aujourd'hui, 7 mai où j'enregistre. La fumée noire vient de jaillir déjà une première fois, donc il n'y aura pas de pape ce soir. Ça aurait été un petit peu étonnant que ça arrive si vite. Polymarchette donne toujours Pietro Parolin, le cardinal vénitien, en tête des favoris. Pour ma part, je continue de penser qu'on aura plutôt une poursuite de la périphérisation de l'Église, c'est-à-dire l'élection d'un autre cardinal, et je pense que celui qui est le plus dans la continuation du pape François serait le cardinal Taglay des Philippines. Voilà. Ça, si je devais faire un pari, ce serait plutôt celui-ci. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables. Quant aux questions sur l'avenir, l'évolution du christianisme, je renvoie à l'avant-dernier live sur la mort du pape François pour ceux que ça intéresse. Europe toujours, le 5 mai, le parti Alternative für Deutschland, en tête de certains sondages nationaux, a intenté une action en justice devant le tribunal administratif de Cologne pour contester cette classification comme parti extrémiste de droite par l'Office fédéral de protection de la Constitution. En effet, cette désignation permet aux autorités une surveillance accrue, y compris des communications privées des dirigeants du parti, si nécessaire, excusez du peu, vive la démocratie. Le vice-président américain J.D. Vance a dénoncé un retour du mur de Berlin, et le secrétaire d'État Marco Rubio a qualifié cette mesure de tyrannie déguisée, appelant l'Allemagne à revenir sur sa décision. Je pense que c'est tout à fait justifié, en particulier si vraiment vous voulez éviter une catastrophe électorale, il suffit que vous regardiez en Roumanie, hein. Toute l'histoire il faut empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir par la force ou par la loi, c'est une très mauvaise idée parce que ça risque plutôt de hâter le mal que de le bloquer. Le ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, a défendu l'autonomie du renseignement intérieur en affirmant que cette classification résultait d'un examen rigoureux et impartial. Doute, surtout quand on voit que les raisons avancées sont en gros que c'est le positionnement politique de l'AFD sur la question de l'immigration, qui l'a fait qualifier comme ça. Donc en gros, c'est vous êtes qualifié d'extrême droite et donc soumis à des propos, à des surveillances de vos conversations privées, si jamais vous avez un certain discours sur l'immigration, ce qui est quand même problématique. Et ça ne facilite pas d'ailleurs la situation politique en Allemagne, puisque mardi 6 mai, Friedrich Merz, le chef des conservateurs de la CDU-CSU, qui devait être élu chancelier par les députés au Bundestag avant de prêter serment, n'a obtenu, contre toute attente, que 310 voix sur 621 exprimées. Il y a 630 députés au total, et donc il lui manquait les 316 nécessaires pour une élection au premier tour. Ce qui était la première fois depuis 1949, je pense, c'est-à-dire depuis le début de la République fédérale allemande. Au second tour, l'après-midi, il a finalement été désigné, mais forcément, ça envoie un mauvais signal. Lors des élections législatives, la CDU a enregistré son deuxième pire score historique, et le SPD son plus mauvais résultat, cependant que l'AFD, elle, bondissait. Après cet échec initial, l'AFD, donc, à égalité avec les conservateurs aujourd'hui dans les sondages, a exigé de nouvelles élections. Selon la presse allemande, aucun membre de la coalition n'admet avoir voté contre Merz. Donc, en plus, c'est un acte de dissidence qui fragiliserait la tradition du compromis en politique allemande. Et forcément, ça fait un peu mouton noir. Donc, semble-t-il, les gens ne doivent pas le faire. Mais je suppose que ça pourrit un peu l'ambiance, puisque tous les députés doivent se regarder de la coalition en se demandant « Mais qui a provoqué cette catastrophe ?» Il y a quand même un gros parallélisme à faire avec la France. Hein. Ça montre que là, c'est même pas une question de régime aussi. C'est une question véritablement d'esprit. Et je pense que le bon référentiel, maintenant, c'est l'Europe, de toute façon. Parce que, je vous disais, cet échec de Friedrich Merz, c'est du jamais vu depuis 1949. La chute de la coalition d'Olaf Scholz qui a amené à ça, c'était du jamais vu depuis 1980 ou 82, depuis 40 ans. Jamais une coalition avait sauté en cours de route avant ça, depuis 40 ans. Et donc c'est à mettre en parallèle avec la France, où nous avons eu la première motion de censure en 60 ans, et où nous avons eu ensuite cette espèce d'arrivée d'un gouvernement impotent avec un François Bayrou qui s'est plus ou moins imposé, mais assez merdeusement, je vais dire vulgairement, face à Emmanuel Macron. Et depuis, un gouvernement qui peut pas faire grand-chose. Et dans les deux cas, il s'agit pour les partis au pouvoir et ces coalitions de survivre en empêchant l'arrivée au pouvoir de la première force politique du pays, qualifiée d'extrême droite, d'un côté le Rassemblement national, de l'autre côté l'AFD. Donc pour moi, on est là avec des craquements et des signes pré-révolutionnaires véritablement en Europe. On voit la lézarde apparaître, s'ouvrir de plus en plus et fragiliser très clairement la solidité de l'édifice. Cela d'autant plus que, à l'échelle européenne elle-même, on commence à voir aussi les signes avant-coureurs d'une confrontation entre la Commission et le Parlement européen. En tout cas, c'est un exemple du type de friction et de confrontation qu'on pourrait avoir. Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, a en effet averti la Commission européenne qu'en contournant les discussions avec les eurodéputés pour adopter un prêt de 150 milliards d'euros destiné au réarmement, c'est l'initiative Rearm Europe, elle s'exposerait à un recours devant la Cour de justice de l'UE. L'initiative Rearm Europe, qui a été lancée en mars, doit comprendre 800 milliards d'euros, dont 150 milliards de prêts pour des équipements militaires via l'instrument SAFE. J'en ai parlé il y a quelques semaines. Pour accélérer le processus, la Commission a utilisé l'article 122 du traité sur l'Union européenne, procédure d'urgence qui, comme pour les vaccins Covid, exclut le Parlement et soumet les textes directement au Conseil. C'est une sorte de 49-3 européen, en fait, hein, si vous voulez. Dans une lettre à Ursula von der Leyen et Antonio Costa, Metsola demande de renoncer à cette procédure, jugée inappropriée par la Commission des affaires juridiques du Parlement, qui pointe l'absence de base juridique viable. Elle souligne que contourner la procédure législative classique, incluant commission, conseil et parlement, menace la légitimité démocratique en limitant les prérogatives du Parlement. Si le Conseil adopte le règlement via l'article 122, le Parlement pourrait saisir la Cour de justice conformément à son règlement. Donc on commence à voir apparaître le même genre de choses. Alors c'est un début, hein, mais c'est le même genre de choses qu'on a vu pas mal ces deux dernières années en France en particulier, qu'on voit arriver maintenant en Allemagne. Tout ceci, un petit peu, entre en résonance avec les mêmes confrontations, les mêmes problèmes de majorité, notamment parlementaire. Et je rappelle, hein, j'ai eu l'occasion de faire des émissions là-dessus, que la majorité, la dernière émission que j'avais fait là-dessus, ma grosse émission, c'était le 2 novembre dernier, sur la possibilité de glissement vers la droite du Parlement européen, parce qu'en majorité absolue, le Parlement européen est à droite. La coalition n'est pas de droite, puisque le PPE s'est allié avec une partie de la gauche et du centre. Mais la réalité, c'est que c'est la droite en soi qui est en valeur absolue au Parlement pour la première fois depuis le début de l'Union européenne. depuis le début de l'existence du Parlement européen. Et donc tout ceci, voilà, laisse. Ben, on est dans le mouvement, en fait, hein, tout simplement, ça avance vers probablement la rupture de ce régime de l'Union européenne. Ailleurs en Europe, samedi, après son retour des États-Unis, le président serbe Aleksandar Vučić a été hospitalisé à l'Académie médicale militaire de Belgrade, selon son cabinet qui n'a pas détaillé les motifs de cette admission. Le cabinet a annoncé qu'une communication sur l'état de santé de Vučić serait faite ultérieurement, une fois des informations plus précises disponibles. Selon les médias serbes, malaise aurait conduit le président à abréger sa rencontre avec Donald Trump en Floride. Peut-être que Vučić est un peu fatigué après ces mois de contestation étudiante, je ne sais pas. Ça pèse peut-être sur sa santé. À propos de l'Espagne, lundi, RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, a déclaré n'avoir aucune preuve à ce stade que la production éolienne et solaire soit à l'origine du blackout inexpliqué qui a frappé l'Espagne et le Portugal. RTE note que ces énergies représentaient environ 70% de la production électrique espagnole juste avant la panne, un niveau significatif mais pas inédit qui avait déjà été observé en 2024 et 2025. Dans un document publié sur son site sous forme de 20 questions-réponses, RTE a démenti plusieurs fausses informations circulant sur les réseaux sociaux, incendies, conditions atmosphériques et relativiser certaines hypothèses. Donc, semble-t-il, la situation est encore floue, en fait. On part en Asie où on entend encore parler des barges immenses qui pourraient un jour servir dans le cadre d'une éventuelle invasion de Taïwan et ont été repérées fin mars dans le sud de la Chine. C'est Le Monde qui nous indique que, dans une note, l'US Naval War College a révélé que ces barges pouvaient se raccorder grâce à des rampes extensibles pour former une jetée de 820 mètres de long permettant d'aller des eaux profondes jusqu'à la terre. Avec des pieds rétractables pouvant s'enfoncer jusqu'au bord de l'eau, elles pourraient se transformer en plateforme pour permettre à des troupes et à des centaines de véhicules de débarquer toutes les heures sur l'île autonome, selon le Naval War College. Donc, pour l'instant, c'est la guerre commerciale qui se poursuit, mais avec un espoir d'amélioration. Vous vous souvenez que Donald Trump avait indiqué que les droits de douane seraient peut-être baissés, seraient probablement baissés sur la Chine, sauf que donc beaucoup avaient parlé de recul à nouveau, d'énième recul de Donald Trump, sauf qu'en réalité, c'était il y a quoi, une dizaine de jours, un peu plus, et il s'est toujours rien passé. Les droits de douane sont toujours à 145%. Et bien, dans la nuit du 6 au 7 mai, les États-Unis et la Chine ont convenu de se rencontrer en Suisse le week-end prochain pour initier des discussions commerciales. Le ministère chinois du commerce a affirmé que la Chine, représentée par le vice-premier ministre He Lifeng, restera ferme sur ses principes et défendra la justice face au ministre américain des Finances, Scott Bessent, et au représentant au commerce, Jamison Greer. Depuis l'arrivée de Donald Trump à la présidence en janvier, les États-Unis ont imposé des droits de douane, je le rappelle, de 145% donc sur les produits chinois, et Pékin a appliqué des taxes de 125% sur les importations américaines. Ces taux jugés insoutenables par des économistes risquent de provoquer une récession et une hausse des prix à l'échelle mondiale. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a qualifié ces niveaux comparables à un embargo particulièrement critique pour la Chine. Je rappelle que mon idée est tout simplement qu'en fait, les États-Unis veulent revenir en pratique sur l'intégration de la Chine à l'OMC en 2001, que Donald Trump a toujours considéré comme étant une erreur. Sans doute a raison sur une bonne partie des plans, puisque la Chine a été rarement de bonne foi dans l'application des règles de l'OMC. Vladimir Poutine a obtenu de la Corée du Nord quelque chose qui lui fait profondément défaut, de la main-d'œuvre. D'après une récente estimation des services de renseignement sud-coréens, environ 15 000 travailleurs nord-coréens auraient été envoyés en Russie, souvent sous couvert de visas étudiants et en violation des sanctions de l'ONU contre Pyongyang. Selon Newsweek, ce chiffre représente une multiplication par 12 par rapport à l'année précédente. Jusqu'à présent principalement employés dans l'extrême-orient russe, en Sibérie et dans les zones frontalières, ces travailleurs pourraient bientôt être déployés à Moscou et dans d'autres grandes villes, comme l'espèrent plusieurs responsables de l'industrie russe. Donc non seulement la troupe nord-coréenne viendrait nourrir l'effort de guerre russe sur le front, mais également à l'arrière, dans la base industrielle de défense. Et le gros morceau de cette semaine, naturellement, c'est l'explosion des tensions entre l'Inde et le Pakistan, qui sont en état de guerre depuis deux jours. Le nombre de victimes des bombardements nocturnes menés par l'armée pakistanaise du côté indien de la ligne de contrôle au Cachemire a augmenté, avec 12 civils tués et 57 blessés, a déclaré à CNN une source de haut rang de la défense indienne. L'Inde et le Pakistan ont eu des échanges de tirs quasi quotidiens à travers la ligne de contrôle depuis le massacre touriste du 22 avril. L'armée pakistanaise avait précédemment confirmé avoir bombardé des positions indiennes au Cachemire sous administration indienne pendant la nuit, réponse aux frappes aériennes indiennes sur son territoire. L'Inde a accusé les Pakistanais d'avoir tiré sans provocation au-dessus de la ligne de contrôle, qui est la frontière de facto qui divise le Cachemire. Le ministre de la Défense indien, Rajnath Singh, a répété ce mercredi devant la presse que les frappes indiennes menées au Pakistan n'avaient visé que des camps terroristes soigneusement identifiés pour éviter la population ou des secteurs civils. L'Inde a affirmé avoir détruit dans la nuit du mardi à mercredi 9 sites présentés comme abritant des membres du groupe djihadiste auquel elle attribue la responsabilité de l'attentat qui a fait 26 morts le 22 avril. New Delhi a accusé le Pakistan d'avoir soutenu ce groupe, ce qu'Islamabad a fermement nié. Les cibles qui ont été choisies ont été détruites avec une grande précision pour faire en sorte que ni la population ni aucune zone civile ne soit affectée, a déclaré M. Singh. C'était une opération soigneusement préparée, ne ciblant que des infrastructures terroristes, a-t-il insisté en essayant de montrer à la face du monde que l'Inde n'est pas totalement irresponsable. Ce qu'on voit, c'est que les frappes sont nettement plus fortes. Il y a eu 9 frappes importantes, donc je pense qu'on doit être à 9 fois la frappe qui avait eu lieu en 2019, qui avait déjà entraîné un combat aérien entre Pakistanais et Indiens. Donc on a déjà dépassé en fait le degré. En fait, il n'y a pas eu d'affrontement de cette intensité entre l'Inde et le Pakistan depuis 1999 et le conflit de Kargil. Hein. Très clairement, donc ça fait 26 ans, ça commence à dater. C'était mai-juillet 1999, le conflit de Kargil. Pour l'instant, il y a beaucoup de flou. Il y aurait eu des avions abattus. Les Pakistanais disent qu'ils ont abattu 5 avions indiens. D'après ce que j'ai vu en Austin, on tablerait plutôt sur le fait qu'il y en aurait eu 3, dont un Mirage français et, plus embêtant, un Rafale français. Ce qui va faire de la mauvaise pub pour le Rafale, alors que on se demande un petit peu comment ils ont fait pour se faire abattre un Rafale. Mais ça, c'est toujours le problème quand vous vendez des avions à des pays. Il y a quand même un culte du cargo un peu militaire, avec l'idée pour ces pays qu'acheter le matériel, c'est acheter la puissance. Ça oublie un peu toute la culture militaire, la formation, etc., qu'il faut avoir. Et qui fait que vous avez des pays comme par exemple l'Arabie Saoudite qui sont extrêmement dotés en matériel mais qui sont totalement impotents sur le plan militaire. La tradition militaire, ça ne se remplace pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'apparemment les hostilités sont lancées entre l'Inde et le Pakistan. Au moment où j'enregistre, ça ne semble pas se calmer, au contraire. Je pense que ça ne se calmera pas, je pense que ça va empirer, comme je l'ai dit dans mes dernières émissions, que à terme la Chine s'impliquera également côté pakistanais contre l'Inde. Semble-t-il que la Chine a déjà mené des exercices dans l'Aksai Chine et dans l'Himalaya ces derniers jours. Il faut se souvenir, en 2019, la dernière fois que ça avait fait ça, l'année suivante, ça avait débouché sur justement la grande confrontation dans l'Himalaya. Et comme je vous ai dit, on était sur un ordre de grandeur inférieur sur les frappes, et ça peut encore augmenter aujourd'hui. Hein. On est dans ce que j'avais dit dans mon émission, c'était aussi mon émission du 2 novembre dernier, qui est toujours disponible, vous pouvez aller la voir, c'est un accès libre, dans laquelle j'expliquais que vraisemblablement entre l'Inde et la Chine, la désescalade autour de l'Himalaya n'était que provisoire et que probablement au printemps il y aurait à nouveau quelque chose. C'est pas impossible que ça passe par le Pakistan. Voilà, les choses, le bateau coule normalement, pour ainsi dire. Bien sûr, ça pourrait se calmer, désescalader, pour reprendre dans quelques années, mais je pense que là, on est un petit peu comme pour l'Ukraine en fin janvier 2022, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a plus beaucoup de doutes sur le fait qu'on va aller vers un conflit extrêmement sérieux et plus étendu qu'il sera. Voilà, je pense que c'est une vraie guerre qui vient d'éclater. Je peux me tromper, ça serait extrêmement surprenant que les choses se calment et que ça ne se maintienne pas au moins à ce niveau de frappe, selon moi. Et comme je vous l'ai dit, comme vous le savez si vous suivez cette chaîne, je pense qu'à terme, on aura surtout, ça dégénérera en guerre entre la Chine et l'Inde, parce que la Chine a des intérêts. Qui sont ceux de trouver une meilleure frontière avec l'Inde, parce que l'Inde ne peut pas se permettre de ne pas faire une démonstration de force, en particulier à côté du Pakistan, et d'autant plus que l'Inde se sent un peu encerclée. En plus, honnêtement, les populations sont assez hystérisées là-dessus, sur ces questions de guerre. Le nationalisme est extrêmement fort. Il faut se rendre compte qu'on a un niveau de nationalisme qui devait être celui en Europe au 19e, début 20e siècle. Donc les gens ont envie d'en découdre. Et surtout, les puissances extérieures, en plus, même si pour l'instant il y a des appels au calme, à faire attention, à pas s'emballer, parce qu'il y a un risque de guerre nucléaire qui, lui, pourrait être nocif pour une bonne partie de la planète. Mais il peut aussi y avoir un intérêt à une guerre limitée, en particulier une guerre limitée entre la Chine et l'Inde, qui épuiserait les deux pays. Et qui serait totalement dans l'intérêt des États-Unis, qui n'aurait pas du coup à, ou qui verrait d'un meilleur œil, qui serait dans une meilleure position relative, stratégique, par rapport à la Chine que s'ils doivent escalader contre la Chine tout seul. Et ça permettrait, dans la stratégie de ressucer finalement de la stratégie Reagan contre l'URSS pour Donald Trump, de faire cette guerre par proxy, hein, l'équivalent de la guerre d'Afghanistan, qui avait épuisé le régime soviétique et pour essayer d'épuiser le régime chinois de la même manière. Voilà ma lecture sur ces événements, donc. Pour moi, on est au début de ça. On va voir si ça se confirme dans le futur. En tout cas, vous pourrez le savoir en venant et puis vous pourrez. J'assurerai le service après-vente dans les émissions des semaines et des mois qui viendront. Donc, il n'y aura pas de souci là-dessus. Je fais toujours face à ce que j'ai dit. Petite annonce avant de terminer. Il n'y aura pas de live cette semaine. Pas d'émission hebdomadaire, donc c'est pour ça que j'ai un peu étendu ou approfondi des questions que j'aurais peut-être traitées en live dans ce bulletin, qui est le bulletin gratuit du mois. Encore une fois, vous avez accès aux autres bulletins en nous soutenant. C'est une contrepartie pour ceux qui font l'effort de soutenir, selon les conditions que vous trouverez en description des vidéos de la chaîne. Et donc je vous retrouverai à partir de la semaine prochaine pour de nouveaux formats. D'ici là, ne vous laissez pas faire.